Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com
Le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Pas aujourd'hui ». C'est ça, effectivement. « Pas aujourd'hui ». En fait, j'utilise ce titre-là parce que ça représente bien ce que je vais parler aujourd'hui. C'est peut-être pas aussi commun que les inquiétudes ou la crainte ou la peur, mais c'est parce qu'il se cache beaucoup mieux que les deux autres. Il se camoufle encore plus facilement et il affecte les gens beaucoup plus qu'on pense. Même ceux qui en sont affectés ne réalisent pas toujours qu'ils en sont affectés. Et pourquoi j'ai utilisé le terme « pas aujourd'hui », c'est que le mot qu'on va parler aujourd'hui ou le sujet que je vais adresser, c'est la dépression. La dépression, juste le mot est déprimant. Juste le mot, il y a une connotation qui est déjà lourde. Juste entendre le mot dépression, c'est déprimant. Et tu sais, ce qui est paradoxal, ben en fait, ce qui est un peu ironique, c'est que dans la société, les inquiétudes sont comme un problème qu'on peut parler en société. Ça m'inquiète. C'est comme si c'était socialement acceptable. Ben oui, je m'inquiète. Qu'est-ce que tu veux? Je fais de même. C'est ma vie. Mais quand on parle de dépression, personne dit « je suis de même ». Personne se dit « ben oui, qu'est-ce que tu veux ». Il n'y a pas grand monde qui se promène en mentionnant ça. Et on veut pas que les gens le sachent. On veut pas que les gens soient au courant. Mais c'est quoi au juste la dépression? C'est quoi ce phénomène-là ou cette maladie-là qui frappe beaucoup plus de gens qu'on veut le reconnaître, ou même les personnes, comme je vous disais, qui le vivent, le reconnaissent eux-mêmes. Et on a tous une espèce d'idée vague ou une espèce d'idée générale de la dépression. On a tous une image en tête, on voit quelqu'un, on voit une personne dans un certain contexte. Mais la dépression, c'est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi et un ralentissement psychomoteur. Donc, globalement, il y a une tristesse qui s'installe, qui a cette douleur-là morale où il n'y a jamais d'espoir, il y a cette perte d'estime de soi et de valeur. Et vous allez voir que c'est un thème qui revient souvent dans les problématiques humaines, le manque d'estime ou le manque de valeur, lorsqu'on perd la référence de ce qui on est et ce qu'on vaut. Et c'est pour ça que Dieu met autant d'emphase sur notre identité en lui. Parce que c'est une des choses qui a été brisée et qui vient tout défaire ou distorsionner dans le... Si on prenait le principe ou l'image d'un ordinateur, c'est comme si l'être humain, son CPU était cassé et c'est son unité centrale. Et c'est ça qui se passe et ce qui fait que tout le reste devient distorsionné et brisé, c'est parce qu'à la base, le péché est venu tout briser. Et la dépression, c'est cet état-là qui est pathologique en fait, qui est aussi un état, qui est une maladie en réalité, qui peut amener tout ce ralentissement-là psychomoteur, c'est-à-dire la personne est moins là, moins aux aguets, puis elle a moins goût, puis c'est physique aussi, tout s'installe. Mais il faut pas confondre la dépression avec la tristesse normale face à des événements ou des deuils, ou d'être déprimé, ou d'être découragé. Ça, c'est autre chose, ça. Tu sais, puis souvent on le voit comme quelqu'un qui vit un deuil de qui peut être la mort de quelqu'un, mais la perte aussi d'une personne, c'est-à-dire une relation amoureuse qui rompt, tu sais, quelqu'un qui rompt, en fait je vais le dire, quelqu'un qui casse, tu sais là, on perd une personne. Il faut pas confondre la dépression avec ça, parce que et c'est pas non plus, mais là je le mets, si je pouvais le souligner, puis tout le monde est ici, je voudrais voir vos yeux. Il ne faut pas confondre avec aussi cette pensée-là que c'est une paresse d'une personne ou un défaut moral chez quelqu'un. Faut pas identifier, parce que là, on va stigmatiser les gens. Et là, au lieu que la personne en parle, elle va encore plus garder ça silencieux, parce que ça fait encore plus mal lorsqu'on est stigmatisé ou pointé du doigt que, ah, ben, c'est sûr, c'est, parce qu'on attaque automatiquement l'identité ou la valeur de la personne. C'est sûr, t'es pas bon. Donc, on vient ajouter au problème qui est déjà là à la base, la perte d'estime ou la valeur de soi, que Dieu vient apporter dans l'identité qu'il nous donne. Mais si on pointe, la personne dit, ben, c'est pas bon. En fait, on va sens contraire de ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il faut faire. Donc, c'est quand tu marches, la dépression, c'est quand tu marches dans cette espèce de vide, de désespoir, de, où, tu sais, tu as ce sens-là où il n'y a pas rien après. Comme une espèce de blocage qui t'empêche de ressentir la lumière, la joie, la paix, le bonheur, bref, la vie. Ça te coupe, ça te brise. Et certains, peut-être vous l'avez déjà vécu pendant un certain temps dans votre vie. Peut-être que d'autres vous luttez en ce moment avec ça. Puis vous vous dites, ben je vois pas comment je vais m'en sortir. Tu sais, vous voyez pas la lumière. Puis en partant, ce que je veux vous dire, et là, c'est pour ça que je veux le mentionner, je ne suis pas un expert en la matière. Je ne suis pas psychiatre ou psychologue. Donc soyez indulgents avec moi. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu est un expert dans le domaine des humains. Je sais que Dieu est un expert et Dieu connaît les humains et leurs problèmes. Dieu est un expert pour moi. Donc, je veux me tourner vers sa parole, je veux me tourner vers Jésus, parce que sa parole apporte un éclairage et un espoir en toutes circonstances, peu importe ce que nous vivons, peu importe la crise, qu'elle soit personnelle, communautaire ou globale et mondiale. Dieu a dans sa parole un éclairage et un espoir pour toutes circonstances. Et c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de se tourner vers lui. Et ce que je veux mentionner par rapport à la dépression, c'est la première chose, c'est que faut réaliser que la dépression fait partie d'un combat spirituel. Dans le sens, pourquoi je dis un combat spirituel? Et là, je suis pas en train de parler de toute cette exagération de dire « Ah, tout est un combat spirituel, il y a rien de physique. » C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Pourquoi je dis que c'est un combat spirituel? C'est qu'à la base, le problème de l'être humain, il est spirituel. Fondamentalement, c'est spirituellement qu'il a un problème. Et ce que je veux dire, c'est que l'ennemi notre âme, le diable, va toujours utiliser tout ce qui est possible dans nos vies, incluant failles physiques, failles émotionnelles, failles spirituelles, failles relationnelles, failles psychologiques. Il va chercher à trouver toutes ces failles-là pour nous détruire et faire le plus de dommages possible dans notre vie. Et là, il veut nous pousser dans ces endroits-là de nos vies où on commence à expérimenter, tu sais, comme délaissé, mis de côté, comme... Et lui, tout ce qu'il veut faire, c'est en faisant ça, c'est créer des dommages. Donc, il cherche ces failles-là dans nos vies. Et il faut réaliser ça au départ que, premièrement, c'est un combat spirituel. C'est que l'ennemi va toujours chercher à nous détruire et à tout faire pour nous arracher des mains de Dieu. Donc, il veut nous pousser dans ces isolations-là, dans ces pensées négatives-là, dans la noirceur en réalité. Donc, il faut réaliser ça en commençant. C'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que les effets de la dépression sont sérieux. C'est très sérieux. C'est pas quelque chose de banal et qu'on peut pousser sous le tapis dans « Ah, oh, c'est pas grave, là, ça va aller. » C'est un sujet très sérieux. C'est un sujet très sérieux et c'est ce que ça produit chez les gens est sérieux, mais c'est réel et tragique en même temps. C'est difficile. Parce que dans notre culture, on cherche parfois à le mettre de côté. Surtout dans un monde occidentaux, très nord-américains, où tout est axé sur la performance, tout est axé sur ce que tu as l'air, sur ce que tu produis. Mais il y a une réalité dans les écoles, dans les familles, dans les milieux de travail, de gens qui vivent ça. Et des situations comme nous vivons en ce moment peuvent simplement augmenter ces effets-là ou la pression que ça fait sur les gens. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est cette espèce de tueur silencieux-là qu'on prend pas toujours au sérieux, qui affecte tellement de gens directement, mais indirectement. Et je pense que comme Église, il faut adresser ce type de sujet-là parce que c'est pas un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène qui est arrivé dans les années 2000 ou dans 1900. La dépression fait partie du système humain depuis toujours. Et il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont été affectés par ces conditions-là, qui ont vécu des saisons de dépression, des personnes que nous, on qualifie de héros. Qu'on qualifie de héros dans la Bible qui ont lutté avec ce genre de situation-là. Et je pense entre autres à un personnage qui a vécu des moments très dépressifs dans sa vie, des moments très down, très noirs. Et ce gars-là, c'est un tueur géant. Peut-être vous le connaissez, il s'appelle David, le roi David. Et dans le psaume 69, au verset 3, David a dit ceci, regardez bien ce qui va être écrit. « Je n'en peux plus d'appeler au secours. J'en ai la gorge brûlante. Mon regard se fatigue à t'attendre, mon Dieu. » En fait, il est en train de dire « Je t'aboute. Je suis plus capable. » Je suis content de voir la réponse de ma famille qui est ici aujourd'hui. Je suis content. Merci beaucoup d'être là. La prochaine, je vais mettre des photos avec des gens qui rient aussi. Fait que quand je vais faire une blague, je vais regarder vers ces personnes-là. Donc, je vais savoir qu'ils vont répondre à ma blague. Mais on voit cette personne-là, David, qui a lutté avec ça. Et ça, c'est un passage, mais il y en a plein que David mentionne à quel point il lutte avec cette pensée-là. C'est des moments sombres dans sa vie. Il y a même un autre personnage qui, lui, a lutté solide. C'est Job. Job, au 3e chapitre, le verset 20 et 21, qui dit ceci. « Pourquoi Dieu fait-il voir le jour aux malheureux, à ceux qui doivent vivre une existence amère? Ils attendent la mort, mais elle ne vient pas. Ils la cherchent plus passionnément qu'un trésor. » Imaginez, quand quelqu'un commence à dire ça, c'est qu'il est vraiment dépressif, là. Quelqu'un qui dit « Pourquoi je suis obligé de vivre une vie si amère? » Et là, il dit « Ces gens-là attendent la mort, mais vient plus comme je veux plus vivre, j'ai plus le goût de vivre. » Il la cherche plus passionnément qu'un trésor. Chercher la mort plus qu'un trésor, t'es à bout. T'es littéralement à bout. Et un grand prophète aussi de l'Ancien Testament qui a parlé à Dieu et que Dieu a utilisé puissamment aussi, a vécu ce même genre de situation-là dans 1 Roi au 19e chapitre, le verset 4, qu'on va regarder ensemble. Et regardez bien ça. « Puis il marcha pendant une journée dans le désert et il alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il s'agit du prophète Élie. Élie qui est reconnu comme « Oh, wow, Élie, le grand homme. » Élie qui fait que « Moi, là, je veux mourir. Je ne veux plus vivre. J'en ai assez de ça. Je suis plus capable. Je suis à bout. Reprends ma vie car je ne vaux pas mieux que les autres. » C'est assez hallucinant de voir que ces personnages-là qu'on considère héros ou grands personnages de la Bible ont vécu ces moments-là. Donc, je vous dis, c'est pas quelque chose de nouveau. Et finalement, on a un autre personnage qui s'appelle Noémie ou Naomi, dépendamment des versions que vous avez, dans Ruth, au premier chapitre, le verset 20 et 21, qui dit ceci. « Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, c'est-à-dire l'heureuse, appelez-moi Mara, qui veut dire l'affligée ou celle qui est remplie d'amertume, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. » Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Wow! Vous voyez, c'est pas nouveau, c'est pas un phénomène récent, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver sur le marché, qu'on vient de voir, qui a infecté le monde par la dépression. C'est toujours été là dans l'être humain. Depuis toujours, les êtres humains ont lutté avec ça. Depuis toujours. Et là, on voit aujourd'hui que c'est déjà là. C'était déjà là. Et ce qui est nouveau, par contre, par exemple, qui est plus dépressif, moi, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai un téléphone. Peut-être que vous avez un téléphone intelligent, vous aussi. J'ouvre mon téléphone intelligent et sur mon téléphone intelligent, j'ai une application qui est dépressive, qui s'appelle Météo. Peut-être que vous l'avez aussi, vous autres, cette dépressive-là. Une application dépressive, à chaque fois que je l'ouvre, c'est déprimant. On regarde, mais en vérité, non, je fais des blagues, là. Je sais que vous riez dans votre salon, étouffez-vous pas avec votre café. Reprenez votre souffle. Calmez-vous. Vous savez, souvent, j'avais je disais souvent aux gens dans la salle, j'avais dans mes notes qu'ils disaient amen ou qu'ils riaient ou qu'ils trouvaient ça. Je les ai plus dans mes notes. Ça a disparu. Il faudrait que je les fasse remettre dans mes notes pour que vous puissiez les recevoir. Vous autres, dites, c'est à ce moment-là que vous verrez. OK, maintenant on arrête. Mais en vérité, peut-être que certains d'entre vous, on lit ces passages-là. Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans cette zone-là de votre vie où que tu ressens toute cette espèce de négativité-là, toute cette solitude-là. Peut-être d'autres, vous avez déjà lutté avec ça dans votre vie où ça fait partie de votre vie depuis longtemps. C'est pas parce que tu luttes pas avec ça. Et là, je vais vous comprendre, parce que là, il y a des gens qui disent, « Oh, mais ça parle pas à moi. Moi, j'ai pas vraiment... » Time out, là. Écoutez-moi bien, là. C'est pas parce que vous ne luttez pas avec ça, que c'est pas un combat dans votre vie, que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui lutte avec ça. Et là, ça s'adresse à vous. Ça vous parle. C'est pas parce que toi, tu le vis pas, que tu peux pas être là pour quelqu'un. Et c'est exactement ça que la Bible nous demande de faire. Ah, c'est pas, mais moi, je vis pas ça, c'est pas pour moi. Le message s'adresse pas à moi. Hey, il s'adresse tout le temps à toi. Je veux te le dire, il s'adresse toujours à toi. Qu'il s'adresse à toi pour l'approprier personnellement ou qu'il s'adresse à toi pour être un aide pour les autres, il s'adresse à toi anyway. Donc, c'est ici je veux que les ceux qui pensaient que c'était pas pour eux, dire, ben, ce message-là n'est pas pour moi aujourd'hui. Attends une minute, j'ai quelque chose pour toi. Reste accroché, reste logué sur la page et sur le feed parce que c'est pour toi ce que je vais dire aujourd'hui. je pense que ce qui amplifie le problème, c'est que ceux qui peuvent aider ne le font pas. J'ai bien dit. Ceux qui peuvent aider ne le font pas. Ou ne savent pas comment le faire. Et ça, c'est une autre affaire. Parce que souvent, on peut voir quelqu'un vivre une situation, mais on se dit, comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire? On ne sait pas comment interagir avec des gens qui vivent ou qui passent à travers des moments difficiles ou des dépressions. Et je pense que comment on interagit avec eux qui luttent est aussi important que les paroles que je, moi, le peux leur apporter aujourd'hui. Comment chacun d'entre nous, on se comporte et on interagit avec eux est aussi important que ce que moi, je vais dire aujourd'hui. Puis, je veux que tu comprennes que Dieu a dit, moi, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière brille dans les ténèbres, là où il fait noir. Si quelqu'un dans sa vie est en train de vivre un moment de dépression, il fait noir dans sa vie. Soit la lumière dans sa vie, soit un phare, soit un repère vers où elle peut regarder. Monte, pointe vers Jésus. Redonne espoir. Et j'ai l'impression qu'en tant que croyant, on veut se tenir autour de la lumière parce que c'est confortable et chaud. Sans risque, en sécurité. Tu sais, on veut être autour. Mais Dieu ne nous appelle pas à être autour de la lumière. Il nous appelle à être la lumière. Et être la lumière, c'est être aussi l'espoir dans la vie des autres. Donc, ce qui m'amène à vous dire qu'on ne peut pas, en fait, nous ne pouvons pas réagir avec désinvolture face à la dépression. Et c'est ce qui amène souvent aux situations qu'on vit en ce moment dans plusieurs de personnes de vie, c'est que cette phrase-là, toute prête qu'on donne, « Ah, je suis désolé. Dieu sente les mains. Je vais prier pour toi. » Ça, c'est une phrase déjà fabriquée qu'on utilise. Mais même si c'est vrai, parce que je n'enlève pas que le fait que Dieu a tout entre ses mains, qu'on va prier pour eux, qu'on est désolé, ça n'enlève pas ça. Mais peut-être vous me dites, ben moi, je suis pas formé, moi. Je suis pas un thérapeute. Je suis pas une personne qui sait quoi dire ou quoi faire. Je suis pas pasteur. Hey, vous savez quoi? Les êtres humains, puis même les thérapeutes, là, arrivent dans des situations où ils sont, je sais pas quoi répondre. Parce qu'il y a des situations où c'est difficile. Mais ce que les gens ont besoin, c'est pas nécessairement qu'on ait des phrases ou des réponses dans le sens où je vais t'expliquer le pourquoi. Mais plutôt d'avoir quelqu'un, d'avoir un espoir, d'avoir une lumière, d'avoir quelque chose au bout du tunnel. C'est ça qui est la réalité. Et t'as pas besoin de parler pour être une lumière. Parce que la lumière, elle parle pas. Elle est claire. Elle est simplement là pour pointer, pour montrer, mettre en lumière. Et souvent, on pense que, ouais, mais moi, je sais pas quoi dire. Je suis conscient et je comprends ce que vous dites. Mais moi, je vais défaire ça pour que ça soit super simple, ce que je vais dire. Et le plus simple, mais en même temps précis. OK? Je vais le défaire de manière simple et précise. Regardez bien ça. Premièrement, là, nous avons besoin d'être une voix d'encouragement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Proverbe au 12e chapitre, le verset 25 dit ceci. Un cœur soucieux déprime un homme, mais une parole aimable le réconforte. Une parole qui est bonne, une parole qui fait du bien, réconforte. Il n'en existe pas de solution miracle. En fait, la seule personne qui fait des miracles, c'est Dieu. Donc, il n'existe pas de formule quand tu parles avec quelqu'un, quand tu discutes ou quand tu veux encourager quelqu'un. Il n'existe pas de phrase pour faire « je vais lui donner cette phrase-là puis tout va changer dans sa vie ». Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Moi, tout ce que je peux faire, parce que je suis un humain, comme vous. Et côté humain, ben on est imparfait. Et parfois, ce qu'on dit va être imparfait. Mais c'est pas parce que ça va être imparfait qu'il faut pas rien dire. Puis c'est pas parce que c'est imparfait nos méthodes qu'il faut rien faire. Il faut pas attendre que tout soit parfait pour faire quelque chose. Parce que vous allez attendre toute votre vie. En fait, on commence et Dieu utilise ça. On devient un véhicule, on devient un vecteur par lequel Dieu passe. Et je dis pas, comme je dis, que c'est un remède miracle de dire, oh, je vais donner une parole réconfortante puis la personne va se relever puis sa dépression va être finie. Ce qui est intéressant, c'est que le texte, ça parle pas d'un mot. Parce que nous, on lit en français une parole, donc comme un mot. Mais c'est plutôt comme un mot qui est constant et persévérant. C'est dans ce sens-là, une parole aimable le réconforte. C'est-à-dire que tu continues à le faire. C'est pas juste quand tu passes dans la vie de quelqu'un et lâche pas, man, t'es bon, ça va bien aller. Hey, big, lâche pas. C'est pas ça. C'est pas comme, ah, wow, belle journée aujourd'hui. Hey, c'est beau tes cheveux. C'est beau ton sourire. C'est le fun, hein? C'est gentil. Mais c'est pas ça qui sort quelqu'un d'un état dépressif. Mais non. La réalité, c'est que c'est la constance et la répétition et de simplement être là. Proverbe 18, 21 dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec nos paroles, avec ce qu'on dit, on peut donner la vie. Et vous savez, la langue est le muscle le plus fort de votre corps. Toute proportion gardée, bien sûr. Le muscle, la langue, c'est la puissance aussi spirituellement qui donne la vie. C'est elle qui peut apporter la vie dans la situation de quelqu'un, qui donne des raisons de continuer, qui donne l'espoir, qui donne de vouloir se battre, de vouloir lutter, de vouloir persévérer, de ne pas abandonner. La langue donne cette vie-là et ta parole est comme une lumière au bout du tunnel de la vie de quelqu'un qui lutte avec cette situation-là. T'entends le message, puis t'es peut-être cette personne-là qui lutte avec la dépression, c'est ton combat quotidien. Je veux aujourd'hui te dire, là j'ai parlé à ceux qui peuvent t'aider. Là je vais te parler à toi, là. Peut-être que t'es en train de lutter avec ça. Première chose, je veux que tu saches, réalise là, dans la vie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et je le dis pas simplement dans le sens où, ah, il y a des gens qui vont m'aider. Oui, mais ce que je t'en ai dit, c'est que t'es pas seul à vivre ça. Il y a beaucoup de gens qui luttent avec ce même obstacle, même défi de vivre ça dans ta vie. C'est plein de gens. Et c'est ce que l'ennemi aime faire. Ce que le diable aime faire, c'est prendre une situation, une faille dans notre vie et de prendre ça puis de nous isoler avec. Et d'en arriver à penser qu'on est les seuls qui vivons ça. On est les seuls qui sont pris avec cette situation-là. Et ce que je veux te dire, c'est que t'es pas seul. Il y a plein de gens qui luttent avec ça. Il y a plein de gens qui luttent avec des pensées de dépression ou des idées noires. Mais l'ennemi aime faire ça. Il arrive puis il va dire, OK, il y a personne qui se préoccupe de ce que tu vis ou il y a personne qui t'intéresse à ce que tu traverses ou ce que tu es en train de lutter avec. Personne ne remarque ce qui est en train de t'arriver. Et il va répéter ces mensonges-là. Et alors, on commence à y croire. Savez-vous quoi? Il fait exactement ce que Dieu nous demande quand il dit une parole aimable et réconfortante. En fait, une parole aimable réconforte. C'est-à-dire, continue, persistance, continuer. Continuer, persévérant, toujours. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va toujours répéter le mensonge. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est répète la vérité. C'est déclare la vérité. Et ça, c'est le rôle de ceux qui sont peut-être pas en train de lutter avec ça, de répéter ça. Mais si tu es en train de vivre ça, sache que tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Et je veux que tu saches que, et je veux que tu te dises, voici la vérité, puis la vérité, elle rend libre, la Bible nous dit. Tu n'es pas seul à vivre ça. De deux manières. La première manière, c'est qu'il y a des gens sur cette terre qui t'aiment et qui s'en font pour toi, qui s'en font pour ta situation, qui se préoccupent de ce que tu vis et sur lesquels il est important que tu puisses réaliser qu'ils sont prêts à traverser ces moments-là avec toi. Parce qu'à un moment donné, on en vient isolé, on en vient tellement dans notre monde de noirceur qu'on est convaincu qu'il n'y a personne qui est intéressé à ce qu'on vit, qu'il n'y a personne qui remarque ce qu'on est en train de traverser. Mais il faut comprendre que c'est pas vrai. Et la vérité, c'est qu'il y a plein de gens dans ton entourage qui sont là. Et que s'ils le savaient, ou si tu leur faisais confiance, ou juste d'exprimer ta vulnérabilité, ils seraient prêts à traverser cette tempête-là avec toi. Ils seraient prêts à être là pour t'encourager. Imaginons un instant que tout le monde sur la planète t'a laissé tomber. Tout le monde en a assez de ta situation. Mettons que c'est ça, là. Laisse-moi te dire que Jésus ne t'a pas laissé tomber. Jamais, jamais il le fera. Il t'aime. Hébreux 13, 5 dit ceci. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu penses que tout le monde t'a laissé tomber, sache que Dieu t'a pas laissé tomber. Jésus a dit, je suis avec toi, je vais toujours être avec toi. Toujours, jusqu'à la fin. Jésus a fait cette promesse, je vais toujours être là. Il n'a jamais dit qu'on n'aurait pas des temps difficiles, qu'on ne vivrait pas des déserts. Il n'a jamais promis ça. Parce que si des fois on part avec cette idée-là, comme, oh, mais notre vie, avait... c'est sûr les chrétiens, votre vie va être belle. C'est pas vrai. C'est difficile. La vie est imparfaite, remplie d'injustices. Mais Dieu a dit, je te laisserai pas. Je t'abandonnerai jamais. Peu importe ce que tu traverses. Il marche avec toi dans les moments sombres. Et il va lutter avec toi et pour toi. Et je veux t'amener à réaliser une chose. Réaliser la valeur que Dieu a placée sur ta vie. Et quand je dis valeur, je fais référence à ce que j'ai mentionné au début. Tu sais, je vous ai dit, dans la dépression, il y a cette perte de valeur de soi, d'estime de soi. Cette perte de valeur, là. La valeur, j'en ai parlé dans les inquiétudes. J'en ai parlé dans la peur. Ces tueurs-là qui interagissent et qui viennent enlever cette valeur-là, où on, tu sais, comme ça vient paralyser. Et on s'inquiète parce qu'on place une valeur sur des choses qu'on considère importantes, donc on se met à s'inquiéter pour ça. Dans la dépression, c'est un peu le contraire qui se passe. C'est-à-dire que dans la dépression, c'est que on a perdu notre valeur et on a cru à ces espèces de mensonges-là qu'on ne vaut rien, qu'on n'a plus rien, que personne ne se préoccupe de ce qu'on vit. Et on arrive là et ça enlève toute valeur à qui on est et ce qu'on traverse. Et on se retrouve dans cette noirceur-là, dans ce tunnel-là, qui est pas évident. Et quand on a perdu notre valeur, la difficulté qu'on a en ce moment, c'est qu'on se ramasse à plus avoir de repères. Parce que quand il y a un sens de valeur, on y revient toujours, nos valeurs, nos convictions. Mais quand il y a plus de sens de valeur, de je vaux rien, tout se défait sous nous, tout c'est comme si le tapis nous glissait en dessous des pieds. Et moi, je vais vous montrer de manière particulière que qui est pas évidente comme un panneau d'autoroute, là. Je sais que ce que je vais vous montrer, peut-être pas comme la grosse affaire, mais je vais vous montrer quelque chose de bien particulier qu'on va voir dans un verset. C'est après que je vais l'avoir expliqué, vous allez voir que ça fait du sens et que c'est évident. Mais je pense aux relations. Pensez un instant. Quelles sont les relations qui sont les plus importantes dans votre vie? Les relations qui sont les plus importantes dans votre vie. Pensez-y un instant. Et ces personnes-là à qui, tu sais, on s'ouvre, on est prêt à laisser connaître de notre vie. Pensez à la personne qui a plus de valeur ou la plus importante, cette relation-là qui est la plus importante dans votre vie. Cette personne-là a accès ou connaît beaucoup de choses de vous que vous ne dites à personne. Cette personne-là est au courant de plein de choses profondes en vous. Donc, elle sait ce qui est important au fond de toi. Elle sait aussi tout ce que cette valeur-là, sur quoi tu places. Mais je veux juste vous réaliser quelque chose, c'est parce que nous, on sait que cette relation-là est importante à cause du degré de tout ce que la personne connaît de nous. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Donc, je veux juste comprendre la comparaison. C'est que la relation est super importante, et plus elle est importante, plus cette personne-là connaît de choses de nous. Parce que ça démontre la valeur qu'on a pour cette relation-là. Alors, regardez bien ce que je vais vous montrer. Dans Luc, au 12e chapitre, le verset 7, regardez ce qui est écrit. Ça dit, c'est Jésus qui dit, « Et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » En fait, Jésus est dans le contexte qu'on a parlé dans le premier message sur les inquiétudes, tout ce qui nous inquiète. C'est pas que les cheveux parlent de la valeur de quelqu'un, okay, en passant, parce que c'est poche pour ceux qui en ont pas, là. Si vous êtes chauve, c'est pas parce que vous n'avez pas de valeur. Au contraire, ça n'a pas rapport. Mais c'est souvent que ce que je veux vous amener à réaliser quelque chose, c'est que quand quelqu'un, dans ce cas ici, Dieu connaît le nombre de vos cheveux, ils sont tous comptés, ce qui peut paraître insignifiant en passant, là. C'est fou de penser à quel point tu es important pour Dieu. Est-ce que vous réalisez la valeur et à quel point est important? Il te connaît jusqu'à ce point-là. Il connaît le nombre de tes cheveux. Comme je vous dis, si vous n'avez pas, c'est facile à compter. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, c'est pas la même affaire. Donc, c'est pour ça qu'il lit tous vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux ou de passereaux ou d'oiseaux, peu importe le texte que vous avez. Vous valez plus. Il est en train de parler de la valeur de quelqu'un. Il est en train de montrer, sais-tu à quel point tu vaux pour Dieu? Parce qu'il compte tous tes cheveux. Quelle personne compte tes cheveux? Même pas toi-même. Donc, toi, tu te préoccupes même pas à ce point-là de toi pour tes cheveux. Mais c'est fou de penser que Dieu te connaît jusque-là. Maintenant, comment on gagne la bataille? Comment on lutte contre ce géant de la dépression? ça commence avec peut-être le pas le plus difficile que tu peux rencontrer, le pas qui te rend le plus vulnérable, le pas qui fait peur. Et le premier pas, c'est celui-là. C'est celui de briser le silence. Briser le silence. C'est pour ça que j'appelle le tueur silencieux. Parce que qu'on n'aime pas en parler vraiment de ça. Hein? C'est pas le fun. C'est comme, on peut-tu parler d'autres choses? On voudrait garder ça en dedans. Et vous savez, toute situation difficile, problématique, commence par ça, briser le silence, lorsqu'on en parle. Je crois que l'Église doit adresser ce sujet-là parce que la Bible en parle. Souvent, on essaie d'utiliser des... Tu sais, je pourrais faire plein de versets sur vous encourager, là, je sais pas, la foi est extraordinaire. Oui! Mais la Bible parle de plusieurs affaires. Parce que Dieu est intéressé et préoccupé par chacune de nos situations dans nos vies. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, Dieu est vraiment préoccupé par ça. Et c'est pour ça qu'il adresse le sujet. Et c'est pour ça qu'il faut adresser le sujet. Et en tant qu'Église, je pense, puis c'est peut-être pas un sujet qui est vraiment adressé dans les Églises. En tout cas, de ce que j'ai cherché, c'est pas un sujet qui est vraiment cherché, qui est vraiment abordé. Mais je crois que c'est un sujet qui est important parce que ça affecte ce que Dieu aime le plus, les gens. C'est un élément qui vient détruire et briser ce que Dieu a mis le plus de valeur dessus, toi. Et je pense que si ça brise ce qui est plus important pour Dieu, je pense que ça vaut la peine de l'adresser. C'est pour ça que c'est important d'avoir des petits groupes, d'avoir toutes ces choses-là. Puis quand on va finir cette confinement-là volontaire de tout le monde, quand on va terminer ça, je sais qu'on va avoir ce besoin-là tout ensemble de vouloir connecter avec les humains. Parce qu'on réalise à quel point que même si on est connecté numériquement ou virtuellement, rien remplace les relations humaines. Et c'est ce que Dieu dit depuis le début, depuis toujours, la relation avec les autres. Ah, on a tellement de bruit, il y a tellement de choses dans nos vies. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'en enlevant tout ce bruit-là, on a réellement, fondamentalement besoin des uns des autres. Et c'est ce que Dieu n'a jamais cessé d'écrire du commencement à la fin de la Bible. À quel point on a besoin des uns des autres pour s'encourager, pour se supporter, pour se pardonner. Mais ce tueur silencieux-là a besoin d'être mis en lumière. Tu as besoin d'amis autour de toi, des croyants autour de toi pour t'entourer. Tu sais, souvent, les gens ont... Puis c'est drôle comment je vais le dire, mais souvent, les gens disent « Ah, j'ai besoin du pasteur. » Je comprends ce que vous voulez dire, mais en réalité, c'est pas moi que vous avez besoin. Vous avez besoin de Jésus. Et Jésus peut utiliser n'importe quel croyant. Alors que tu sois quelqu'un qui ne lutte pas avec ça, tu es un outil. Et c'est pas parce que le pasteur est pas disponible puis que tu vis avec ça qu'un autre croyant ne peut pas être cette parole-là, cet encouragement-là que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, n'identifiez pas comme « OK, il faut que ça soit Dieu » ou « faut que ça soit le pasteur », je veux dire. Non. Ne voyez pas ça comme ça. Voyez-le comme Dieu utilise les gens. Et la question est vraiment, sommes-nous prêts à faire ça? Briser le silence. Tes amis croyants, t'en as besoin, mais eux aussi ont besoin de toi. Parce qu'ils ont besoin aussi d'être utilisés par Dieu. Ils ont besoin d'être en contact avec toi, en relation avec toi. Présentement, c'est impossible à faire. Physiquement, je parle. À moins que vous ayez dans la même maison, la même famille. Mais sinon, il y a quelque chose qui existe encore qui s'appelle téléphone. À la base, c'était ça l'idée. D'appeler, de jaser avec quelqu'un. À la base, le téléphone servait à parler. On a enlevé le fil et on s'est promené avec ça. Mais appelez quelqu'un. Prenez le temps d'appeler. Puis vous pouvez le faire. Le téléphone a ajouté une chose, c'est que vous pouvez le faire en vidéo. Vous pouvez voir quelqu'un. Vous pouvez jaser avec quelqu'un. Prenez du temps avec une personne. En fait, vous l'avez le temps, là. Vous avez le temps de pouvoir le faire. Deuxième chose que je veux vous donner, si tu vis ça, c'est d'abandonner tes luttes à Dieu. Abandonner tes luttes à Dieu. Parce qu'en fin de compte, il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui a la puissance pour agir. Parfois, on peut avoir peur de dire à Dieu nos luttes, nos combats. Comme si on... Tu sais, quelque part... On a un peu peur de dire à Dieu, « Seigneur, je vis ça. » Parce que si on lui dit ça, c'est comme si on l'avait laissé tomber, comme si on n'était pas si bon que ça finalement. Comme si on avouait notre échec. On n'est pas arrivé au standard d'être le si bon chrétien que ça qu'on projette. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Dieu connaît déjà nos failles. En fait, on n'y apprend pas grand-chose. On fait juste l'officialiser. On fait juste le reconnaître. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'humilité. Je vais juste mettre dans le contexte. C'est ça que Dieu appelle l'humilité. L'humilité, c'est pas d'être un tapis puis de passer pour un pas bon. L'humilité, c'est de reconnaître ce que t'es. Point. Ben, j'ai manqué mon coup. C'est l'humilité. Tu reconnais la situation. L'orgueil, c'est de ne pas reconnaître ce que t'es en train de vivre ou ce que t'es en train de qui tu es. Donc, si on a l'impression qu'on laisse Dieu tomber, qu'on faillit à la tâche d'être un bon chrétien, regardez bien ça. Jésus dit ceci dans Matthieu 11e chapitre, le verset 28. J'aime ce verset-là. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » C'est lui qui dit, « Hey, t'es fatigué de vivre ça, t'es fatigué, dis-moi-le. » Et là, quand il dit, « Je vous donnerai du repos », c'est pas parti en vacances dans le sud, là. C'est pas dit, « Je vous donnerai un billet pour aller en vacances », c'est pas ça qu'il est en train de dire. Quand il vous dit « Je vous donnerai du repos », c'est un repos spirituel. Spirituellement, émotionnellement, psychologiquement. Je vais te donner du repos. Psaume 50, le verset 15, il dit « Quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. » Wow! Quand tu seras... Pas si... Quand? Ça veut dire « Maintenant, tu vas le vivre. » Quand tu vas être dans la détresse. Peut-être que tu es en train de le vivre aujourd'hui. Seigneur dit, appelle-moi. 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 Parle avec Dieu. Il dit, moi, je vais te délivrer. Puis tu pourras célébrer ma gloire. Tu pourras chanter mes louanges. Tu pourras témoigner de ce que j'ai fait. Ça me fait de la peine de savoir que dans la vie, ça me fait beaucoup de peine quand j'apprends ou j'ai su qu'une de mes filles a lutté avec des problèmes quelconques. Elle a eu une peine d'amour. Puis, qu'elle m'en parle juste pas. Ça me fait de la peine parce que je voudrais pouvoir l'aider. Je voudrais tellement pouvoir l'aider. Quand une de mes filles vit un problème quelconque et le vit tout seul, ça me fait de la peine. Je suis pas fâché. Je suis triste parce que je me dis, vis pas ça toute seule. Laisse-moi le vivre. Je veux être là pour toi. Imaginez comment Dieu est. C'est pareil. Dieu veut qu'on vive nos situations, mais il veut les vivre avec nous. Dieu est là. Dieu est là. Appelle-moi, je vais te délivrer. Quand tu vas être dans la détresse. Et finalement, troisième chose à faire, c'est de remplacer les ténèbres par l'espoir. Remplacer les ténèbres par l'espoir. Un peu comme dans la semaine dernière, je mentionnais, on change ce que nous plaçons nos pensées dessus. Tu sais, nos pensées sont orientées vers quelque chose. Enlever le négatif et le remplacer. La Bible parle dans ce sens-là. En Philippiens, au 4e chapitre, le verset 8, ça dit, « Enfin, frère, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Wow! En fait, de façon pratique, je trouve ça intéressant. Regardez, cette semaine, le printemps est arrivé. On l'a pas beaucoup remarqué. Mais moi, ce que je vous dirais, remarquez la beauté de ce que Dieu est en train de faire. La nature continue son cours. Les bourgeons vont sortir, on va voir des fleurs qui vont arriver, qui vont reprendre vie. Regardez comment Dieu redonne la vie à ce qui était mort durant un hiver. Et que Dieu fait rouvrir. Remplis tes pensées de cet espoir-là que Dieu est celui qui te redonne la vie. Qui nourrit tes pensées. Et ce que lui te donne, nourrit tes pensées de ça. Je dis toujours, combien de fois j'ai dit ça? Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges périt. Ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges périt. Ce que tu nourris dans ta vie va prendre l'espace. Et ce que tu négliges va diminuer. C'est quoi? Où tu mets? Tu nourris? Tes relations avec ta famille, avec Dieu? Ou tes inquiétudes? Ces pensées noires-là? Façon pratique que tu peux faire. Mets de la louange dans la maison. Mets des chants dans tes écouteurs, dans ta voiture. Ouvre ta Bible. Laisse sa parole te donner espoir et encouragement. Lis les psaumes, extraordinaire. Les auteurs parlent souvent de ce que l'on vit, de ce qu'on traverse. Tous ces moments noirs, sombres dans nos vies. Mais ils reviennent toujours, ils pointent à Dieu. Tout revient toujours vers Dieu. Et quatrièmement, cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous luttez avec la dépression. Oui, vous pouvez m'écrire. J'ai mon adresse qui est là. Vous pouvez prendre mon adresse en note, l'adresse courriel, pour prendre rendez-vous. Mais je vais probablement aussi vous conseiller d'aller voir un médecin. Il y a aussi ce lien que j'ai pour vous, qui est la dépression fait mal. Dépressionfaitmal.ca. J'ai monté mon message sur la parole de Dieu. J'ai pris le temps de chercher tous ces passages-là. Et par la suite, quand je cherchais justement de l'aide ou des outils pour apporter de l'aide, et quand je suis tombé sur ce site-là, la dépressionfaitmal.ca, c'est drôle que sur ce site, j'ai trouvé tous les mêmes points, les mêmes indications. Briser le silence. Oh, il n'y a pas à abandonner tes luttes à Dieu, mais c'est de remplacer tes pensées par des choses positives, de l'espoir. C'est fou que ce que la Bible nous mentionne, le site nous amène à la même place. Comment s'en sortir? Je te laisse avec cette phrase. Ton parcours est peut-être sombre, mais ça ne signifie pas qu'il est sans espoir. Peut-être qu'il y a plein de négativité, mais c'est pas sans espoir. C'est pas parce que c'est négatif ou que c'est sombre que c'est sans espoir. C'est peut-être ton histoire, ta situation. Tu as perdu ta valeur. Mais la vérité, c'est que tu trouveras seulement ta véritable valeur en Jésus-Christ. Seulement. C'est lui. Tu peux chercher partout dans ce monde. Et je te le dis par expérience. Tu peux chercher dans plein d'affaires. Ça va demeurer vide. Es-tu prêt à donner à Dieu une chance, une opportunité? Une opportunité de que lui puisse venir dans ta noirceur, de pouvoir marcher avec toi et te redonner espoir, de redonner la valeur à qui tu es, à ton identité. En fait, il veut te donner sa lumière pour marcher sur ton chemin. Et aujourd'hui, il veut t'apporter cet espoir-là dans ta vie.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet au www.eglisem.com, www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.